ça vous dit d'aller boire un verre?
Non, on écoute, vous êtes libre ce soir.
Bienvenue sur Vous êtes libre ce soir, l'émission de la culture libre sur Radio Béton 93.6. Alors, une nouvelle émission que l'on va faire ce coup-ci sur différentes encyclopédies et surtout, je crois, Emmanuel, si t'intéresse, c'est le fonctionnement de la communauté. Donc, on va pas parler uniquement de Wikipédia, mais uniquement de concurrents, alors souvent méconnus. Donc, on va les faire connaître que l'on le souhaite ou non. Ces deux concurrents, ce sera Knoll, pardon, qui a été fait par Google, ainsi que Citizendium, qui est un peu un projet dissident, on va dire, de Wikipédia. Enfin, on reviendra dessus. Ce qu'on pensait bien faire, c'est commencer par expliquer les principes fondateurs qui font que Wikipédia est ce qu'est Wikipédia aujourd'hui.
D'abord, on peut dire que Wikipédia est une encyclopédie, ce qui limite un petit peu les choses. Pour le débutant qui voudrait bien y parler de sujets un petit peu futiles, comme son groupe de rock lycéen préféré qui joue pendant les foires.
Quoi ? C'est pas futile ?
Ou alors exprimer ses opinions comme s'il était sur Skyblog ou autre. Et donc, ça impose d'exposer de manière synthétique l'ensemble des connaissances humaines. Et donc... l'ensemble des connaissances, mais pas n'importe quelle connaissance. On exclut par avance des choses un petit peu trop originales, comme des articles scientifiques qui viennent de sortir. Faut quand même que ça soit des choses validées.
Ou si c'est quelque chose qui est vraiment pas du tout connu, enfin qui a pas vocation à être connu en dehors du village de Poutouziouk sur Seine ou je ne sais quoi, et ben on va pas en parler. Il faut qu'il y ait un minimum de répercussions, que ça puisse intéresser un minimum de monde.
La communauté a défini ce qu'on appelle des critères d'admissibilité et ça catégorie par catégorie.
Ouais, je tiens à m'excuser pour les habitants de Poutouziouk. Bon, désolé. Blague à part, donc, je suis sûr que ce n'est pas tous les principes fondateurs, il y en a aussi d'autres.
Ah oui, celui qui est très important, et même très central, c'est la neutralité de point de vue. C'est un grand point, parce que c'est ce qui garantit une certaine impartialité dans l'encyclopédie, et qui va éviter aussi des polémiques qui seraient liées au fait que, soi-disant, Wikipédia serait soit un complot des anarcho-gauchistes, soit une manœuvre scélérate des ultralibéraux. Non. Wikipédia ne doit pas exprimer le point de vue de ses auteurs, et doit rester neutre dans sa formulation, c'est-à-dire ne donner aucun avis sur les choses.
La politique de Wikipédia, c'est généralement de dire il y a telle partie qui pense qu'il faut que ça c'est bien ou que c'est pas bien, et il y a telle autre. En fait, on expose les points de vue des parties ou des différentes personnes qui prennent parti, mais sans en valoriser une plus qu'une autre.
Voilà. Et dernier principe fondateur qu'on va présenter avant de présenter la concurrence, c'est le fait que Wikipédia est publié sous une licence libre. C'est la Creative Commons by SA, donc une licence très libre, qui dans son principe est un petit peu semblable à celle des logiciels libres, parce qu'elle permet la modification, la réutilisation, la diffusion, et même à des buts commerciaux.
Moi, j'ai parlé d'un autre principe fondateur qui est sous-jacent, c'est le fait que ça reste constamment accessible à tout le monde et que n'importe qui puisse participer à l'édition de Wikipédia et de manière anonyme. Enfin, on peut être enregistré, mais l'objectif n'est pas d'avoir une identité et un statut ou quoi que ce soit.
Oui. L'idée, c'est de ne pas se priver des contributions qui seraient apportées par un étranger qui viendra une fois dans sa vie sur Wikipédia.
Wikipédia, on suppose que vous savez déjà un petit peu comment ça fonctionne, enfin que vous êtes déjà allé dessus. C'est pour ça qu'on s'est intéressé aux principes fondateurs qui sont peut-être un peu moins connus. Il y a aussi quelque chose dont on voulait parler, c'est la façon dont c'est organisé, comment est organisée la communauté qui gère Wikipédia en fait.
Disons qu'il y a un petit peu d'hiérarchie. Pourquoi ? Parce que c'est nécessaire. Il faut bien, à un moment, que les décisions soient tranchées. Par exemple, quand il y a un article qui est créé et qui manifestement n'a pas d'intérêt encyclopédique, qui ne connaîtra jamais aucun développement valable, eh bien, faut bien quelqu'un pour décider si oui ou non il a sa place. Donc, la plupart des décisions sont prises de manière, on va dire, démocratique. C'est pas la démocratie comme dans un État, où là, on va appeler tous les électeurs au bureau de vote le dimanche, comme bientôt. Mais c'est, on va dire, la démocratie de celui qui participe. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a une décision à prendre, et on va essayer de se mettre d'accord dessus, avec les gens qui vont visiter la page, et qui vont bien vouloir voter. L'idée, dans toutes ces décisions, c'est pas j'ai la moitié des votants plus un, donc j'ai raison. C'est d'arriver vraiment à un consensus, pour établir de manière assez indiscutable que la décision est bien fondée.
Ouais, souvent, quand il y a un article qui est un peu polémique ou qui, du moins, pose problème, il y a une page discussion qui est créée autour où chacun peut exposer son point de vue sur la problématique. Et c'est ça qui est censé régler les conflits. Alors après, il y a différents statuts d'utilisateurs quand même. Les utilisateurs non enregistrés qui viennent là juste « Oh, j'ai trouvé une faute d'orthographe, je vais modifier. » Ou alors écrire un article complet, mais sans pour autant s'enregistrer. Les utilisateurs qui ont fait le choix de s'enregistrer sur Wikipédia. Et enfin, les administrateurs. Alors moi, j'avais une question à poser à Emmanuel qui est bien meilleur que moi sur Wikipédia. C'est comment devient-on administrateur ?
Ah oui, c'est qu'un administrateur, c'est d'abord un contributeur assez intensif. J'ai parfois vu les pages personnelles des administrateurs. Il y en avait qui fêtaient leur 25 000e contribution sur Wikipédia. On peut dire qu'ils sont très très actifs, qu'ils doivent y passer pas mal de temps. Mais en fait, un administrateur à la base, c'est un utilisateur qui voudrait faire son travail plus efficacement, parce qu'un administrateur a des droits supplémentaires. Par exemple, quand il y a un débat sur une page à supprimer, c'est lui qui va pouvoir vraiment supprimer la page. Donc il a ce droit-là. Il peut aussi, en cas de conflit, bannir un vandale ou donner des avertissements aux gens qui se comportent mal. Mais bon, après, ce pouvoir-là n'est pas non plus absolu.
Donc c'est uniquement le nombre de contributions qui fait qu'on devient administrateur ?
Non, c'est pas ça. C'est l'implication dans la communauté et le fait que cette personne-là a bien participé et aussi a fait des choses de qualité, accessoirement.
D'accord. Alors on est aussi là pour parler de concurrents, aussi méconnus soient-ils. Le premier est quand même fait par ce qui est en train de devenir un géant de l'informatique, c'est-à-dire Google. Autant dire que ça a un petit peu fait peur aux Wikipédiens quand ils ont commencé à comprendre l'existence de ça. Ça s'appelle Knoll et ça a été lancé assez récemment, il y a quelques années je crois, je vais vous dire ça. En 2007, si je dis pas trop de bêtises, et ça a pour but de référence d'être une encyclopédie en ligne également, avec les différences que, en général, le créateur de l'article est connu, il peut donner son identité éventuellement si son travail ou quelque chose qui peut être en relation avec l'article, et il est entre guillemets seul possesseur de son article, dans le sens où je peux pas moi aller sur son article et l'éditer.
L'idée de base par rapport à Wikipédia, où les contributeurs sont généralement anonymes et dont on ne montre pas le nom, à part si vous fouillez bien dans l'historique, vous trouverez la liste des modifications et les gens qui ont contribué. Là, l'idée de base, c'était de rapprocher le lecteur de l'auteur. Et après, c'est assez différent. Au niveau des articles de Knoll, disons, c'est pas vraiment une encyclopédie, au sens où sur un sujet donné, il peut y avoir plusieurs articles concurrents. Alors que dans Wikipédia, on impose forcément, quand je recherche un sujet, je dois trouver un article, un seul.
Oui, sur Knoll, il peut y avoir plusieurs articles sur le même article. Et en fait, les utilisateurs ont le droit de poster des commentaires pour dire ce qu'ils pensent de l'article, mais également de voter pour dire cet article-là est vachement mieux que celui-là, donc je mets 5 sur 5, alors que l'autre, je mets beaucoup moins. Et donc, c'est censé permettre de retrouver les bons articles des moins bons. Alors en pratique, je crois que ça marche pas très très bien, Emmanuel ?
Disons que par rapport à Wikipédia, il y a pas tellement la masse critique pour concurrencer Wikipédia. Et puis, faut voir que c'est pas vraiment sur le même segment. On a dit que Wikipédia se définissait strictement comme une encyclopédie. Alors que là, tout à l'heure, je me suis amusé à aller sur Knoll. Qu'est-ce qu'il y avait en page d'accueil ? Et il y avait un lien sur un tutoriel de comment faire avancer son paladin sur WoW. Et si vous essayez de créer ça dans Wikipédia, je crois pas qu'on acceptera, parce que c'est anecdotique, et qu'on n'accepte pas les tutoriels, les recettes de cuisine, et aussi les articles où on présente son point de vue personnel, où c'est des essais un petit peu...
Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas, WoW, comme a dit Emmanuel, c'est World of Warcraft, c'est un jeu vidéo très à la mode. Enfin voilà, t'avais 2-3 mots pour finir sur Knoll, je crois.
C'est vrai, c'est que si on veut faire la comparaison, Wikipédia est une encyclopédie libre, mais Knoll, c'est des articles qui ne sont pas tous libres. C'est en fait au choix de l'utilisateur qui a créé la page de choisir une licence. C'est-à-dire qu'il peut dire tout droit réservé, pas touche... t'es dans ton coin, ou alors il peut donner une licence libre sous Creative Commons, qui permet aussi de réutiliser, et même dans Wikipédia. Aussi sur le mode de collaboration, l'idée c'est à la base que l'éditeur est tout seul à écrire, mais il peut aussi autoriser les autres à s'impliquer dans son article. Il y en a qui autorisent tout le monde à éditer, d'autres qui modèrent. Et en fait, on est des fois sur le modèle Wikipédia, par certains côtés, ou des fois sur le modèle producteur-consommateur. C'est moi qui écris, c'est toi qui lis, et point barre.
D'accord, sachant que pour l'instant, Knoll, on en a très peu entendu parler en France. Ça existe toujours, mais visiblement, il y a peu d'engouement, peu d'utilisateurs. Je pense que c'est quand même beaucoup moins complet que Wikipédia.
Oui, c'est clair. Alors, à chaque fois qu'il y a un nouveau concurrent qui arrive pour Wikipédia, il y a toujours des gens qui critiquent Wikipédia et qui se disent « Tiens, ce machin va enterrer Wikipédia ». Et on se rend compte qu'au fil des années, Wikipédia est increvable et ça marche toujours, même si c'est imparfait.
Alors à propos de « je trouve que Wikipédia est imparfait, je voudrais bien faire mon truc mieux », on va parler de Citizendium. Alors là, c'est un projet qui est carrément dissident de Wikipédia, qui a été fait par des gens qui d'abord ont travaillé sur Wikipédia et après se sont dit « moi je pense qu'il vaut mieux faire autre chose », parce qu'ils critiquaient Wikipédia. En particulier, je pense que c'est l'anonymat qui était critiqué, le fait que chacun puisse contribuer sans être connu, ou alors d'utiliser un pseudo du style Dudu37 sur Wikipédia. Ils voulaient que ce soit fait par des spécialistes, et que ce soit en tout cas vérifié et que ça puisse être entre guillemets complètement sûr, c'est ça?
Ouais, c'est qui reprochait à la base à Wikipédia d'être anti-élitiste et de ne pas reconnaître l'autorité des experts, parce qu'il disait ouais, s'il y a un mec qui est professeur de droit à l'université bidule, eh ben il y aura toujours un clampin pour le contester, qui a pas fait d'études de droit, et donc ils voulaient rétablir le respect pour les experts, et c'est ça vraiment leur principe de base.
Voilà, donc Citizendium. Alors à noter aussi que ça marche que en anglais,
oui.
Ce qui est bien dommage, parce que tout de suite, oui, effectivement, ça devient élitiste. Ils ont réussi leur coup, c'est-à-dire que c'est encore inaccessible pour une grande partie du monde. Et on peut aussi voir que les articles. Alors ça a été lancé quand même il y a quelques années, le 16 septembre 2006. Donc ça fait maintenant 3 ans que ça existe. Et en quantité d'articles, c'est très très faible, je crois.
Ouais, c'est environ 13 000 articles. Et en fait, leur but, c'est de créer des articles très complets, très fiables, nickel, vraiment. Et pour l'instant, ils sont à 121 articles approuvés par leurs experts. Et pourquoi il y a si peu de monde? En fait, il y a juste un millier de contributeurs sur Citizendium, alors que sur la Wikipédia en anglais, il y en a un peu plus de 500 000. Vous noterez la différence. C'est parce qu'il y a pas mal de barrières à l'entrée. D'abord, on doit donner sa propre identité. Ensuite, on doit s'inscrire avec une adresse email qui est une adresse email professionnelle, pas celle de Gmail ou d'Hotmail ou de n'importe quel service de mail gratuit. Et ensuite, on doit envoyer son CV. Ça doit être approuvé. Et puis, déjà que le Wikipédia moyen a plutôt tendance à se défier de l'autorité, eh bien, le Wikipédia moyen, là... S'il se dit « mon travail va être censuré par des experts qui auront raison, tout ça », eh bien, il a un peu d'appréhension et il n'a pas tellement envie d'être jugé. C'est bien ça qu'il faut dire.
Alors, et éventuellement, quand même, l'avantage de Citizendium, c'est qu'il y a quelques excellents articles, alors très très rares, je pense qu'une centaine, tu parlais, Emmanuel, qui eux ont été faits complètement. À côté de ça, il y a beaucoup d'articles qui sont quelques ébauches de quelques lignes qui sont vraies, et donc qui ont été approuvées par les experts, mais qui restent quelques pauvres lignes. Et donc, parmi cette centaine d'articles, il y en a des très bons, avec l'avantage qu'ils sont sous des licences libres. Tout le contenu de Citizendium est sous licence libre, et donc peut être aussi récupéré par Wikipédia si jamais eux trouvent que ce contenu est intéressant.
Et officiellement, sur Wikipédia, il y a un projet qui récupère du contenu de Citizendium.
Voilà, et ben, je pense qu'on va terminer là-dessus. Et ben, moi, je vous dirais quand même, utilisez Wikipédia, contribuez, et surtout, si vous voyez des petites erreurs, n'hésitez pas à essayer, à vous essayer à la case modifiée pour voir ce qui se passe.
Voilà, et si vous voulez contribuer, vous allez sur le lien communauté, vous aurez un petit aperçu de ce qui se fait dans la communauté. Et je vous conseille de suivre l'accueil des nouveaux arrivants qui vous donnera des conseils sur ce qu'il y a à savoir et la manière de procéder.
Très bien, et ben au revoir, bonne journée.